C'est le module 4, on va voir les options dans lesquelles on va passer en mode bascule pour le PRA, tester les machines virtuelles qu'on a répliquées en face et voir si ça marche. Alors, quels sont les scénarios qu'on va mettre en œuvre quand on a un PRA?
En fait, globalement, tu as 4 cas possibles. Le premier, c'est tu as envie de tester ton plan de PRA. Alors, on ne devrait pas dire tu as envie, c'est, tu dois tester ton plan de PRA. Mm-hmm. Comme on l'a dit dans le premier module, un PRA, ça se teste et ça se reteste et ça se maintient à jour.
Voire même, tu es obligé, parce que selon l'activité, il y a des endroits où c'est obligé de tester le PRA.
Oui, pour des raisons réglementaires, pour passer certaines normes de sécurité, etc. Bon, en tous les cas, c'est pas une bonne idée, ça doit être normal de tester un PRA, et il faut tester un PRA. Donc, cas numéro 1. Donc, l'avantage du test du PRA, effectivement, c'est que l'idée, c'est de ne pas toucher la production et de démarrer dans un environnement isolé pour vérifier que les procédures sont bonnes, etc. etc. Autre cas dans lequel on va pouvoir mettre en place le PRA et l'utiliser avec Hyper-V Replica, c'est quand on met un site en maintenance. Par exemple, agrandissement d'une salle de data center ou refonte de l'électricité, voilà.
Repeindre en bleu, par exemple.
Oui, je pense pas que la peinture soit vraiment, mais on peut imaginer.
À l'époque du cloud, on aime bien repeindre en bleu des data centers pour faire un cloud privé.
Donc, on va mettre donc le site en maintenance. Ça, c'est un cas d'utilisation de reprise d'activité. Anticiper un désastre imminent, là, typiquement, c'est effectivement quand on voit qu'une tempête est en train d'arriver. Alors, ça, c'est vrai que c'est une vision où en France, on n'est pas encore trop, pas trop impacté par ce genre de choses, mais aux États-Unis, par exemple. Chaque année, ils ont la période des ouragans, et les ouragans remontent des Caraïbes et puis ils se refont toute la côte Est. Et ça, un ouragan, en général, ça n'arrive pas du point A au point B en 2 secondes. On le voit arriver, il y a des cartes satellites, et donc effectivement, ils connaissent à peu près les trajets que vont avoir l'ouragan et le cyclone. Donc du coup, ça permet d'anticiper en disant, voilà, mon data center, il est sur la trajectoire de la dépression. Je vais peut-être basculer tout mon data center, ma production... vers un data center de secours, comme ça, même s'il y a vraiment un désastre majeur sur le bâtiment et donc ce qu'il contient, c'est pas grave parce que j'ai déjà déplacé mes ressources avant. Donc j'ai anticipé le désastre imminent. On peut anticiper une inondation, par exemple. Dernier cas, le désastre soudain, donc l'explosion, le feu, le tsunami, enfin voilà, des choses comme ça qui effectivement sont tellement soudains que on peut pas se préparer et se dire bon, allez, on va lancer le plan les gars. En général, ça nous arrive et puis on déclenche le plan suite au désastre. Donc dans les 3 premiers cas, on peut dire que on va faire une bascule, un failover planifié. Donc on dirait dans le premier cas c'est un test failover et dans les cas numéro 2 et 3 ce sera un vrai failover. Donc ce sera planifié, effectivement, dire si je sais que mon site va être mis en maintenance de telle date, je peux me préparer et dire tel jour, je vais m'organiser pour déclencher mon plan de bascule. Pareil, anticiper un désastre imminent, on sait que la tempête va arriver dans 3 jours ou dans 2 jours. Ok les gars, on déclenche le plan, et donc là on n'est pas surpris, on va dérouler quelque chose d'un peu mieux. Donc l'intérêt de quand c'est planifié, c'est qu'on va perdre aucune donnée. Aucune donnée, parce qu'en fait on va arrêter proprement l'ensemble des machines virtuelles et des ressources qui tombent dessus. Laisser la réplication et donc redémarrer ces machines. Par contre, du coup, quand on va devoir arrêter les machines, on va avoir une petite indisponibilité du service. Et puis, donc, on travaillera sur le site secondaire. Et ensuite, on planifiera du site secondaire vers le retour sur le site primaire. Donc, en 4 étapes, ça donnerait quoi ? Arrêter les machines virtuelles sur le site primaire, laisser le temps que les derniers logs de synchronisation soient faits. Donc comme il n'y a plus de changement sur la source, au bout d'un moment, tout est répliqué exactement pareil sur la destination. On redémarre sur les réplicas sur le site secondaire. On travaille dessus. Quand on a terminé, réplication inverse, donc arrêt des machines sur le site secondaire, attente et réplication de l'ensemble des logs, redémarrage de la production. On n'a rien perdu comme données, on a juste eu un peu d'indisponibilité dû au temps effectivement d'arrêt et de bascule.
Parfait, c'est 3 scénarios majeurs. Ils sont implémentés naturellement dans Hyper-V. Donc le premier, tu l'as dit, c'est le test du failover. Donc on va avoir la possibilité d'aller comme ça sur le serveur de réplica. On va sélectionner sur la machine qu'on veut faire un test de failover. Donc il va nous proposer la liste des machines, la liste des clichés en fait qu'on a stocké pour la machine virtuelle. Basée sur les paramètres de réplication, on aura une liste des retours arrière possibles. basé sur cette machine qu'on a sélectionnée, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va créer une nouvelle VM. Ce ne sera pas celle qui est répliquée, ce sera une nouvelle VM qu'il aura créée, qui va en fait créer un différentiel, enfin un fichier différentiel de VHD avec la VM originale, et il va exécuter ce différentiel. Et puis, à partir de là, on va pouvoir tester dans un réseau isolé que la machine virtuelle elle est bien opérationnelle, faire nos petites validations, que tout se passe bien. Et puis, une fois que c'est fini, ben, on supprime la variation. Et pendant ce temps-là, sur la VM qu'on réplique, eh ben, on continue à accumuler la production, évidemment, du fichier et des VM de la prod qui continue de répliquer vers le site secondaire.
Exactement. Donc, aucune interférence avec la production. Effectivement, le but, test basique, donc vérifier déjà que votre réplication marche. Et puis, former surtout et tester le plan de reprise. C'est-à-dire que le plan de reprise, on l'a dit, hein, c'est quelque chose qui est très documenté. On ne doit pas se poser de questions. Hein. Donc effectivement, les gens suivent une procédure, ben, ça permet vraiment de tester que la procédure elle est bonne en testant avec différents personnels et de vérifier du coup qu'ils soient à l'aise. Ouais. L'idée, c'est de jamais découvrir dans un plan, dans un PRA, découvrir les interfaces, découvrir le mode de fonctionnement du PRA, découvrir les pervers réplicas. Ah, c'est comme ça que ça marchait, ah, ouais, j'avais jamais vu. Ça, c'est pas bon. En ouais, général, de toute façon, dans un PRA, le niveau de stress sur les personnes est tel qu'il ne faut pas leur rajouter en plus le stress de la découverte des interfaces.
Alors, bah, effectivement, ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est que le petit bouton test failover, ensuite, à l'étape d'après, il va nous dire sélectionne le cliché dont tu as besoin, c'est celle-là, ouais. Là, on prend le dernier recovery point, test failover. À partir de là, la machine est instanciée dans une VM différente, et puis on est dans un relo isolé préconfiguré. Si on n'a pas préconfiguré, de toute façon, il va nous le demander.
Voilà. Ouais, je peux presque te le montrer.
Eh ben,
allez, on va en faire un petit avant de faire la bascule planifiée. Donc, je retourne ici sur mes serveurs Hyper-V. J'ai plusieurs serveurs Hyper-V ici. J'en ai un qui s'appelle le Winology et qui a pas mal de machines virtuelles en cours de réplication, donc certaines avec des warnings, donc certaines en mode normal. Donc, on voit des changements ici qui sont en train de tourner. Donc, on va prendre n'importe quelle des machines. Par exemple, tiens, mon DirSync qui est ici. Alors, il est arrêté celui-ci, c'est pas rigolo. Il est arrêté, c'est normal. Donc c'est un réplica, à quoi je le vois, ben, je vois dans la colonne réplica qu'il y a ici un indicateur, on en reparlera dans les modules suivants de à quoi correspondent ces indicateurs. Mm-hmm. Donc la machine est arrêtée parce que c'est le réplica, d'accord ? La vraie machine en fait ici ne tourne pas, elle doit tourner sur celui-ci si je ne dis pas de bêtises, ou Hyperstan 2, oui, si je pas de bêtises, que je n'ai pas mis ici.
Donc il y a une qui tourne, d'accord.
Donc, si je fais démarrer cette machine virtuelle...
Vas-y, qu'est-ce que ça donne ? Normalement, faille spatio-temporelle, hein, là, deux serveurs qui ont le même nom en production, ça va être un petit peu embêtant.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne démarre pas, non ?
Exactement, ça ne peut pas démarrer. Alors en fait, si le serveur d'origine était
qu'est-ce qui se passe ? Il essaye d'aller voir si le serveur sur lequel la VM originelle tourne,
exactement,
il est encore up.
Et là, il dit, bah non, là, on ne peut pas le démarrer, là, parce que la raison...
En face, il est encore en vie.
Hyper-V l'a arrêté, parce qu'il dit, non, là, il y a une réplication qui est en cours, j'ai une source qui est en train de tourner, on n'y touche pas. Donc, on a mis quand même ce petit garde-fou pour éviter... vous voyez que ça prend un petit peu de temps, parce qu'il va quand même vérifier que la machine en face est disponible sur l'autre hyperviseur, etc.
Donc, si on veut faire un test...
Bouton droit, réplication... Et là, on va avoir donc, les fameuses options dont on va parler tout à l'heure, qui sont effectivement le failover dans ces détails. Et là, on va faire du test failover. Test failover, et il dit, ben voilà, on va créer une machine, nouvelle machine virtuelle pour vérifier que le point de restauration est bon. Et puis, bon, on va démarrer cette machine. Donc là, on me demande lequel je veux choisir. Donc là, j'étais dans le mode le plus simple pour des raisons d'économie de disque. Je n'ai que le dernier point. Je vais cliquer sur test failover. Là, il va mouliner un petit peu. Faire 2-3 tests, peut-être puis, me demander des informations complémentaires, je ne me rappelle plus si ça va être le cas. Et après, il va m'instancier une nouvelle machine virtuelle basée, comme tu l'as dit, sur un disque différentiel. Donc là encore, ça va dépendre en termes de démarrage des performances disque de la plateforme.
On voit que là, notre ami était un petit peu radin sur le disque, sur le système de secours. Hein.
Bah, le système de secours, l'idée, c'est d'arriver à le faire dimensionner juste assez bien pour qu'il coûte moins cher que de reproduire la production. Donc un peu plus faible, mais néanmoins avec assez de performance pour pouvoir ne pas trop attendre comme ça.
Mais là, le compteur du RTO tourne, hein. La production doit redémarrer.
Exactement, et c'est pour ça tout à l'heure que quand je donnais le temps de RTO d'Hyper-V Replica, c'était plus une fourchette proposée, entre guillemets, de 10 à 30 minutes. Parce qu'au-delà de la partie purement technique, effectivement, il y a certaines opérations, etc. On va le laisser tourner. On viendra dessus dans les prochains modules. On en reparlera de toute façon. Et puis, je te propose de continuer le module sur la partie failover, planifié ou non planifié. Et puis, on reviendra sur cette console tout à l'heure.
D'accord ?
C'est parti. Alors, bascule planifiée, là, c'est de se dire, effectivement, je prends mon site, je veux faire une opération de maintenance ponctuelle. Donc, on va démarrer une bascule sur le serveur de réplica, sur votre destination. On va sélectionner le snapshot dont on a besoin en prenant l'option failover. On vérifie le bon fonctionnement de la VM, on réalise des opérations de reconfiguration, renvoyer la machine virtuelle ensuite vers sa origine. Vers son origine.
C'est pas facile, hein.
C'est pas facile. Donc, effectivement, bah, les scénarios, on en a discuté hein, déjà. C'est tester que tout ça fonctionne correctement. C'est exactement les mêmes options qu'on a vues, le planned failover. Sauf que là, ouais, c'est pour du vrai.
Sauf que là, c'est pour du vrai. Donc, c'est tester, mais tester au-delà du test failover. C'est tester vraiment en switchant sa prod d'un point A à un point B. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir penser également, et là, ça fait partie des procédures, à rediriger les utilisateurs vers les bons services, etc. Il y a peut-être un peu de reconfiguration au niveau du routage. Enfin, voilà, des petites choses à faire comme ça.
D'ailleurs, quand on retournera tout à l'heure dans les propriétés, on regardera la partie failover IP pour voir justement ces changements.
Exactement.
Et puis le dernier cas, le gros bouton rouge quand plus rien ne va, c'est la bascule non planifiée. Là, c'est la situation qui est un petit peu moins confortable en général, où on va simplement effectivement déterminer qu'on passe en mode failover. Il n'y a plus d'espoir possible pour le data center principal. On choisit qu'est-ce qu'on veut exécuter, vérifie le bon fonctionnement de la VM, et puis bah, voilà, j'ai envie de dire, on passe sur le site secondaire. Ça peut être les différents scénarios classiques. Et puis, ce qu'on veut atteindre avec ça, c'est d'avoir vraiment, une fois qu'on s'est assuré que dans le cas du test failover, ça s'est bien passé, que là, tout se passe bien dans le cadre d'une bascule non planifiée. On va retourner voir dans la console à quoi ça correspond, si on a l'occasion de faire notre petit test failover.
Bien sûr. Bon, là, par exemple, ça continue encore à tourner. Parce qu'en attendant, je vais aller sur notre serveur, parce que j'en ai plusieurs. Tu vois, c'est quand même bien fait. Donc, qu'est-ce que j'ai comme serveur intéressant ? Voilà, ici par exemple. Donc là, j'ai répliqué. Donc tu vois ici, mon dirsync était en train de répliquer en plus, donc c'est pour ça que j'avais des...
Il y a beaucoup d'écritures qui s'accumulent peut-être sur le disque.
Oui, il y a beaucoup d'écritures qui s'accumulent sur le disque. Mais du coup, ça c'est intéressant parce qu'on va aller... Ah voilà, ça a été démarré, ça a pris un peu de temps. On voit que mon test failover est à 50% ici. On voit qu'ici, j'ai ce fameux checkpoint dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc on est parti d'un disque différentiel et tac, on descend d'un bloc. Et donc, je dois avoir en running quelque part. Hop, on va faire ça test.
Je crois qu'il est encore en train de créer quand il marque test failover.
Oui, ouais, il est encore en train de le créer. Donc, il est en train de le préparer. Et donc, on aura une VM qui apparaîtra avec, je crois, dans le nom, si je n'ai pas l'utilise, -test.
Ouais.
Et donc là, c'est juste un problème, entre guillemets, de disque qui rame un petit peu. Donc il est en train de me créer la VM tout doucement.
Alors est-ce qu'on peut regarder dans les propriétés réseau de cette machine virtuelle là et puis aller voir quelques domaines intéressants dans les settings. On doit avoir quelque chose qui s'appelle failover TCP/IP. Si ça se charge hein, par rapport
oui,
à
oui,
tout à l'heure.
Oui, bien sûr, ben ça.
On doit avoir la partie network adapter et puis on a failover TCP/IP. Alors,
en fait,
ça charge là.
Il y a deux. Sans temps de charger doucement. Oui, c'est bon. On a deux choses hyper importantes effectivement. La première c'est celle-ci. Donc failover TCP/IP. Arnaud, explique-nous un petit peu en gros à quoi ça sert.
Alors, c'est exactement pour ce changement d'adressage qu'on va voir entre les différents data centers. Il est assez probable que l'adresse IP va changer sur le data center secondaire. Donc, ce qu'on fait avec failover TCP/IP, en fait, c'est qu'on va. Alors, c'est en conjonction avec les composants d'intégration à l'intérieur de la VM et puis le switch virtuel d'Hyper-V qu'en fait, les paquets IP qui vont être émis par la machine virtuelle vont être réécrits par le filter driver d'Hyper-V pour avoir les adresses IP alternatives qu'on spécifie ici dans cette case. Donc, ça veut dire que ce qui va passer sur le câble réellement, dans le cas où je fais un failover, c'est les adresses IP telles qu'ils ont été spécifiées ici, réécrits dynamiquement par Hyper-V.
Exemple, vous êtes sur le serveur de source, l'ensemble de vos machines virtuelles, donc les adresses IP intérieures, c'est du disque quelque chose. Mm-hmm. Là, je vais redémarrer sur un serveur, sur un data center de secours, où le plan d'adressage est de 192.168. Mais dans ce cas-là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire, hop, mon failover IP sur le deuxième data center, c'est 192.168, passons les 1.100. Mm-hmm. Le masque qui va bien derrière. La passerelle qui va bien. 54, les DNS, etc. Quand vous allez redémarrer le réplica sur le site secondaire, vous n'allez pas toucher la configuration 10 quelque chose qui est à l'intérieur de la machine virtuelle. Ça, vous ne faites rien. Par contre, quand les paquets seront émis sur le data center secondaire, ce sera cette adresse-là que ça va utiliser. Donc, il y a une réécriture. L'idée, c'est vraiment de limiter en gros les actions qu'on doit faire dans le PRA, dans les machines. Si on doit venir dans chacune des machines virtuelles et reconfigurer l'IP à la main à l'intérieur, imaginez un petit peu le drame que ça peut être.
Et puis surtout, au retour arrière.
Ah bah oui, au retour arrière. Donc, les changements d'IP sur des DNS, sur des DC ou des choses un petit peu plus sensibles, ce n'est pas une très bonne idée. Mm-hmm. Donc là, l'idée vraiment, c'est de laisser faire, entre guillemets, la mécanique d'hyper-vérplica pour vous faire ce changement d'adresse d'un data center à l'autre. Et comme ça, du coup, grâce à cette technique-là, le failover TCP/IP, il prendra cette adresse dans le deuxième data center, mais il ne touchera pas à la config IP à l'intérieur de la VM. Voilà, c'est le plus important.
Parfait. Et puis, la petite case test failover qu'on voit, là, c'est simplement le réseau virtuel, le switch virtuel qu'on va utiliser lorsqu'on est dans le cadre du test.
Exactement. Donc, si on est dans le cadre du test, on peut avoir pré-créé à l'origine des switches virtuels. Donc, je ne sais pas si ce que j'en ai qu'un seul, donc ce n'est pas terrible. Mais j'aurais pu pré-créer à l'avance, donc ça, c'est partie des procédures, un virtuel switch de test. Et dire, je vais redémarrer, faire mon test failover avec plusieurs VM qui vont se regrouper dans un virtual network de test isolé de la production. Et comme ça, je peux vérifier effectivement que l'ensemble de machines applicatives fonctionne.
Parfait, cool. Alors, est-ce que là, enfin, réussi à démarrer cette machine ? Normalement, ça devrait être bon. On devrait voir test failover quelque part.
Exactement, elle est là.
Donc là, on a bien test. Et cette fois-ci, si tu fais démarrer, normalement, ça devrait mieux se passer. Donc là, elle est partie en haut.
Ah oui, alors il faut j'ai plus de mémoire de RAM sur mon serveur. Et parfois.
Comme parfois, quoi, la loi de Murphy se vérifie tout le temps.
Non, mais c'est pas très grave. Mais là, le message est relativement clair. C'est-à-dire que j'ai effectivement cette machine de test. Et cette machine de test, j'avais plus de RAM pour la démarrer sur mon serveur physique, mon hôte de virtualisation. Mais cette machine de test, je peux la démarrer. Et effectivement, après, je peux la supprimer pour terminer mon test de failover. Voilà. Donc c'est vraiment une machine qui est à part, elle est complètement décorrélée de l'ensemble du test.
Et pendant ce temps-là, la réplication continue pour la machine.
Exactement, on voit ici l'état. Ouais. Et je ne sais pas si je peux faire un arrêt comme ça.
Non, tu peux dire stop.
Exactement,
failover,
je fais un stop failover. Et ce stop failover, donc, il me le dit bien, la machine virtuelle dirsync-test sera supprimée et ces data seront annulées. Stop test failover.
Impeccable. Voilà. Cool. Ben voilà pour
désolé, on n'a pas démarré, mais tu comprends le principe.
On te fait totalement confiance. Voilà pour cette mise en œuvre et ces différents types de bascules qu'on peut faire avec Hyper-V. De nouveau, fondamental de tester le PRA, mettre en œuvre toutes les briques techniques pour ensuite pouvoir préparer tout le reste qui est en fait le plus compliqué, les procédures et puis les hommes qu'on met autour de tout ça. Dans le prochain module, on verra un petit peu plus de détails sur les mécanismes internes proposés pour réaliser tout ça.